BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Salut à toutes et à tous. Un vrai plaisir comme chaque semaine de vous retrouver. Bon week-end et merci d'être là, à la fois en audio, en vidéo, sur BFM Business le week-end, à la radio, à la télé, mais aussi en podcast, sur la chaîne YouTube et sur la chaîne aussi Tech & Co. Très heureux de vous accompagner pendant une heure pour toute l'actualité tech. Nous sommes ça y est de retour de Las Vegas, on reprend nos bonnes vieilles habitudes, notre petit studio sympathique pour commenter toute l'actualité, avec aujourd'hui pas mal de choses, vous allez voir, on va évoquer le Galaxy S24 qui est sorti, et puis on s'intéressera à toute l'actualité Apple. On parlera aussi d'un petit objet rigolo qui s'appelle le Rabbit et qui a fait sensation. On en a un peu parlé la semaine dernière, mais on va y revenir. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre. Vous êtes les bienvenus. C'est parti pour De quoi je me mêle. Et avec un club de la presse IT high level cette semaine. Encore une fois, là, franchement, du beau monde. Mélinda d'Avansoulas qui est avec nous. Salut Mélinda.
Hello François, bonjour messieurs.
On ne se quitte plus.
Voilà. Non, mais c'est beaucoup plus calme ici.
Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus calme. Tranquille. Autant vous dire qu'on a un peu des cernes sous les yeux, les amis, mais c'est normal. Hein. Et on encaisse tranquillement les 9 heures de décalage, les petits virus dans l'avion, au salon. Enfin, voilà, on vous fait vivre voilà, notre vie de journaliste qui crapahute un peu partout. Anthony Morel est avec nous aussi. Salut, Anthony.
Salut, François. Salut à tous.
Ça va?
Bah, ça
du,
va.
Je du pense... CES au morning.
Écoute,
ça,
tout se passe bien. Ouais, je sais plus dans quel sens je suis, là, très clairement. Non, mais la réalité, c'est que si tu reviens du CES sans avoir une bonne crève, c'est pas un bon service.
Ouais, mais voilà, exactement. C'est ça. Que tu n'as pas arpenté les allées du salon comme il se doit.
Bien sûr.
Lui, il est en pleine forme. C'est Olivier Frigara. Salut Olivier.
Salut les amis. Ça
voilà,
va bien
Olivier. Mais très bien. Très heureux de te retrouver, Olivier, auteur du podcast On refait le Mac, entre autres, que vous retrouvez régulièrement sur toutes les plateformes. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par l'actualité du moment. C'est le Galaxy S24. Ça y est, il a été annoncé. Alors, pour être tout à fait transparent, nous enregistrons cette émission avant l'annonce officielle du Galaxy S24. Mais, comme nous sommes très gentils et qu'on est pistonnés, on a toutes les infos avant. Mais on n'est pas à l'abri, en fait, à partir du moment où Samsung dégaine son impact, eh bien de passer à côté d'une ou deux nouveautés. On parle beaucoup d'une bague connectée, on parle beaucoup aussi d'un masque de réalité virtuelle. Peut-être que, voilà, tout ça pourrait être annoncé. Mais là, on va se focusser sur le Galaxy S24. Et s'il y a autre chose à nous mettre sous la dent, on en parlera, bien sûr, la semaine prochaine. Mélinda, tu as été briefée donc, concernant ce Galaxy S24.
Je les ai vus.
Elle les a vus au CES, pour tout vous dire. Voilà,
en marge du CES, exactement. On va être complètement transparent. Je fais partie des privilégiés qui ont pu les voir avant leur annonce officielle. Alors, l'avantage avec Samsung, c'est que l'officialisation, en fait, c'est l'officialisation des rumeurs.
Oui.
C'est comme ça tous les années. On a l'impression que c'est une espèce de rituel, c'est-à-dire qu'on sait déjà tout et on attend quand même le unpack pour être sûr que tout était vrai. Mais en général, tout est vrai. Donc, je vous confirme, tout était vrai, quasiment.
Ouais.
Même si, comme tu l'as dit, on est, nous, avant l'annonce officielle. Donc, théoriquement, peut-être qu'il y aura un ou deux petits trucs qu'ils n'ont pas voulu nous montrer.
On parle beaucoup de cette bague qui faisait partie des rumeurs.
Là, pour le coup, ce serait du lourd.
Ouais.
Ça serait marrant. Ça serait un bon one more thing pour leur conférence, quand même.
Puis, en plus, on l'a vu au CES.
Arrêtez d'utiliser ce vocabulaire d'Apple. C'est scandaleux. Ils ont même jusqu'à copier la keynote.
C'est un hommage. C'est déjà un hommage.
On n'a pas fini d'en parler. Mais en effet, on a vu, nous, au CES, qu'il y avait beaucoup de marques parfois complètement inconnus, qui sortaient leurs bagues. En général, quand il y a beaucoup de bagues connectées qui débarquent, alors que ça fait des années qu'on en parle, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri qu'ils nous la présentent, mais ça, pour le coup, c'est une vraie surprise, je n'ai pas vu.
Alors tout ça, excuse-moi, mais avant d'attaquer les annonces officielles de ce Galaxy S24, tout ça est dans un contexte assez étonnant. Il faut savoir que Samsung a perdu sa première place de vendeur de smartphones dans le monde.
Tout un symbole.
Et c'est Apple qui a repris le lead. Donc,
en volume, il faut préciser,
volume,
parce que c'est
évidemment
ça qui est hyper intéressant.
Incroyable.
C'est-à-dire que malgré le fait que les iPhones coûtent évidemment en moyenne beaucoup plus cher que n'importe quel autre fabricant, parce que Samsung, il y a les téléphones haut de gamme, mais il y a tous les
et
autres.
Et qu'il y en a moins surtout,
moyenne.
C'est ça.
Il y en a
chez
moins.
Apple, il y a moins d'entrées chez Samsung.
Et donc en nombre d'unités, aujourd'hui, Apple vend plus que n'importe quel autre fabricant au monde. C'est vrai que c'est une performance assez dingue.
C'est
234 millions d'iPhones écoulés selon IDC.
Combien, pardon?
234.
Moi, j'ai noté 234.
Quand ça, en 2023?
En 2023
sur l'année.
Wow. Il faut quand même savoir
contre 226 pour Samsung.
Voilà, que Samsung a une série Galaxy A déjà énorme. énorme. Oui, et qui était son cœur de vente. Le A54, c'est quand même le cœur de vente.
C'est quoi? C'est moins de $300 aujourd'hui?
Alors, on est aujourd'hui sur la gamme Galaxy A, on est plutôt entre, allez, on va dire 200 et 600, 700. Le Galaxy A54, il commence à chiffrer.
Alors que le ticket d'entrée chez Apple, c'est quoi? C'est 500, 600 euros aujourd'hui avec l'iPhone SE.
Pour le SE, ouais, on est autour de un peu moins de 500. Au 529, je crois qu'on est. Ouais. Mais surtout, bah, on sait que les iPhones coûtent très cher. Puis, surtout, il y a moins d'unités. Quand on prend Xiaomi, on prend Samsung, c'est des gens qui ont une gamme dans laquelle on se perd au bout d'un moment, tellement il y a d'entrées. Rien qu'on va parler des S24. Là, l'année dernière, les S24, il y en avait 3. Ils rajoutent le S23 FE. Ils déclinent de A10, enfin A14,
A74. Ils tirent en fait au maximum. Ils veulent créer l'actualité en fait.
Voilà, aussi, et puis ils veulent être tout au long de l'année. Toutes les gammes tarifaires. Oui. Apple se concentre sur le très haut de gamme et le SE qui est là, mais qui est quand même une entrée de gamme à 500, comme elle dit.
Un peu vieillissante en plus.
Complètement vieillissante avec un design rétro.
Et encore une fois, voilà, Apple casse l'ambiance. Samsung n'a même pas annoncé encore son Galaxy S24. Et bim, tiens, prends-toi ça derrière la nuque.
C'est ça.
Je deviens le premier vendeur de smartphones au monde.
Surtout, en plus, Samsung qui a essayé de se démarquer. C'est-à-dire que maintenant, ils font leur présentation en janvier. Souvenez-vous, à l'époque, c'était pendant le Mobile World Congress, donc plutôt vers février-mars. Puis juste avant, donc début février. Maintenant, on est carrément mi-janvier pour la présentation. C'est les premiers à dégainer. Et en effet, peut-être qu'ils avaient écho de ces ventes-là, enfin des chiffres qui allaient être publiés, et en se disant, il faut qu'on dégaine les premiers. On sait que le Google Pixel 8 Pro sorti fin 2023, leur a mis un coup.
C'est vrai ?
Il a cartonné ?
En fait, en chiffres, il est en dessous encore, parce que Pixel, même si ça commence à très bien se vendre, ils sont en dessous en termes de vente, en termes de volume. Mais au niveau notoriété, en fait, il se passe quelque chose dans le milieu de la téléphonie qui fait que Samsung devait...
Google est en train d'acquérir ses lettres de noblesse dans le smartphone.
On en a énormément parlé parce que c'était le premier smartphone dopé à l'intelligence artificielle.
C'est un excellent smartphone.
Ouais, c'est des très très bons téléphones. Voilà, mais ils ont fait un très gros coup marketing parce que c'était vraiment le premier téléphone de l'ère IA. En gros, ils l'ont vendu, ils l'ont marketé comme ça. Et Samsung s'est bien réagi.
D'ailleurs, on va en parler. Le S24, alors on reprochait à Samsung d'aller beaucoup piocher, s'inspirer. Même en étant novateur, je ne dis pas que Samsung n'innove pas, mais d'aller s'inspirer niveau design du côté de l'iPhone. Le S24, honnêtement, c'est un iPhone. Il y a juste, si on le retourne, on voit qu'il y a les trois capteurs verticaux alignés. Mais sinon, dans le design en main et le feeling en main, c'est un iPhone.
Avec du titane en plus.
Il est un peu plus arrondi.
Alors, le titane n'est que pour le S24 Ultra.
Je vois les images.
Oui, il est un petit peu, mais on voit que l'inspiration, clairement, elle est sur l'iPhone.
Moins carré que les années précédentes.
Voilà, le S24, lui, est un petit peu plus rectangulaire. C'est un héritier du Note, du Galaxy Note avant. Mais en revanche, dans la philosophie, c'est complètement du Pixel 8 Pro. C'est-à-dire que cette année, le message qui va être véhiculé par Samsung sur son Galaxy, enfin sur ses Galaxy S24 et notamment Ultra, c'est de l'IA, de l'IA, de l'IA. Le reste, c'est le S23. Soyons honnêtes, c'est le S23. On a un peu affiné les bords pour dire qu'on a fait un peu de changement. Mais le design, c'est le S23. C'est le design aussi qui est en train de toucher la gamme Galaxy A. Donc, ils gardent ce design assez droit, bord droit, les trois capteurs photo alignés. Mais derrière, c'est de l'IA, gogo.
Et est-ce qu'il y a des killer apps? Parce que c'est ça, l'IA, moi, cet argument marketing que tous les fabricants de smartphones vont nous sortir.
On commence un peu à saturer là-dessus.
Parce que si c'est juste pour changer la tête...
Et le aujourd'hui, hein,
changer, on fait un selfie tous ensemble et puis je change ma tête contre celle de Melinda ou contre celle d'Olivier, c'est rigolo deux minutes. Mais moi, c'est pas ça qui va me faire acheter. Après, voilà. On fait dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit un vrai argument de vente au-delà du côté gadget. Donc, est-ce qu'il y a des trucs qui vraiment, là, en termes d'IA,
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en effet, quand on a suivi l'actualité de Google et des avancées du Pixel 8, et en plus de Google, même Pixel, je vais dire, sur la retouche photo, on va voir la même chose. On peut faire de la retouche photo, de la reconstruction, redimensionner. Il y a la gomme magique comme sur le Pixel 8 au niveau de l'IA, alors qui s'appelle Galaxy AI, parce que pour montrer qu'elle est maison, elle a été complètement faite avec Google. De toute façon, ils le disent, elle est conçue en partenariat. Donc, on comprend tout à fait avec qui. Les fonctions sont celles des pixels. Donc, retouche photo, amélioration sur les usages. En fait, ce que je trouve bien, c'est qu'elle est pensée pratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet gadget comme on a eu, tu dis, sur le pixel. Honnêtement, la fonction au fait des photos de groupe où on peut mettre la meilleure tête de chacun, on l'a tous fait une fois ou deux.
Et
au bout d'un moment, on oublie. Ouais. Là, elle est vachement plus pensée pratique sur l'usage photo. Donc, il y aura plein de choses. Il y a un truc que je n'ai pas vu chez Google, mais qui arrivera peut-être, qui est justement l'effet de reflet sur les vitres qu'on peut gommer.
Ouais, c'est pas mal.
Alors ça, j'ai trouvé ça génial.
Ouais, c'est pas mal.
Ça, je trouve que c'est super bien. Reste à voir en pratique vraiment, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de photos au moment des tests. En revanche, traduction en temps réel, et vraiment en temps réel. C'est-à-dire que j'ai essayé, par exemple, vous êtes dans un pays étranger, vous devez appeler pour réserver un restaurant.
Ouais.
Vous spécifiez que la personne que vous allez appeler parle en espagnol et que vous êtes en français. Et en gros, ça va faire la traduction. C'est-à-dire que la personne vous parle.
Donc je suis au téléphone, c'est un appel normal.
C'est un appel normal, sauf qu'il y a cette espèce de latence, évidemment, de traduction. Donc moi, j'avais quelqu'un en espagnol qui me parlait. Ça me donnait une traduction française. Alors, honnêtement, qui est encore un petit peu approximatif, c'était beaucoup plus fidèle en anglais, mais ça a le mérite d'exister. Où on me dit, on me traduit avec un léger décalage d'une seconde et demie, ce que dit la personne. Moi, je lui réponds en français et ça lui traduit en espagnol.
Mais t'entends le doublage ou t'entends quand même sa voix en espagnol avec la voix en français au-dessus ou t'entends juste en français en fait ?
Imagine quand on regarde un sujet télé avec quelqu'un qui va être doublé.
Donc t'as le doublage.
T'as cette espèce de latence que tu la laisses commencer à parler.
Les premiers mots en étranger et puis après il y a le doublage qui part.
Voilà, et dessus après j'ai la voix.
Wow.
Donc ça c'est pas mal. Je peux avoir la même chose en retranscription écrite sur le téléphone en direct, c'est-à-dire ce que raconte la personne. Je l'ai. Alors c'est pareil, vous regarderez sur le site, on va vous mettre une belle vidéo sur la traduction qui est parfois un peu approximative, mais on comprend l'idée.
Bah, l'essentiel, c'est qu'on puisse comprendre le sens, c'est ça.
Ça, et c'est pas mal.
J'imagine que ça va progresser. Hein.
Évidemment, c'est de l'IA. Après, traduction, évidemment, si vous croisez quelqu'un dans la rue, ça existe déjà chez Google, vous pouvez faire de la traduction en direct. Pareil, vous pouvez faire de la traduction d'envoi de SMS ou de message. J'envoie un message, je tape en français à quelqu'un qui est allemand, je dis juste « traduis-le-moi en allemand » et ça l'envoie à la personne en allemand, elle me répond « ça va me le traduire en français. » Ça, c'est dans les côtés un peu pratiques.
Ils n'ont pas créé leur propre moteur d'intelligence artificielle générative, comme le fait un Google ou
ils te disent que oui,
serait en train de préparer Apple. On
ils te
bien
disent que oui, ils ont rajouté une surcouche, mais clairement, quand tu regardes les fonctions, c'est barde, quoi.
Ah ouais.
Honnêtement, il y a
c'est dommage parce qu'ils étaient, ils bossaient là-dessus. Moi, je me souviens de Vive. C'était les balbutiements de l'IA et c'était made in Samsung pour le coup.
Tu te rappelles de Bixby aussi ou pas?
Bixby, mais oui, c'est ça. Absolument.
J'ai demandé.
Non, mais ils étaient en pointe quand même sur ces sujets-là. En tout cas,
Bixby, il n'y avait pas beaucoup de pointe.
Non.
C'était très arrondi, si tu veux.
Non, mais ils investissaient en tout cas pour créer leurs propres outils algorithmiques et leurs propres outils d'IA. Donc c'est dommage de se dire que maintenant ils intègrent des outils,
c'est à eux. C'est-à-dire que la base, c'est Google, clairement.
Disent ou pas? Ou est-ce que c'est
alors,
un peu...
Ils te disent qu'ils ont des partenaires qui les ont aidés à concevoir, mais en revanche, ils ne te le disent pas ouvertement que c'est Google. Tu comprends juste, dans quelques fonctions qui arrivent à côté, qu'il y a eu de la négo. Par exemple, ils ont un système de quick share qui est fait avec... qui était le share nearby de Google, ils ont des avancées, ils ont des fonctions de Google qui sont ajoutées dans les fonctions des Galaxy S24. Tu comprends qu'il y a du partenariat et de la négo sur d'autres trucs. Donc, je vous ai dit envoie SMS et il y a évidemment l'IA intégrée pour, par exemple, vous résumer des mails que vous avez recevoir, vous aider à écrire des messages, mail ou SMS, vous aider dans le style. Alors là, j'ai rigolé, j'ai écrit un message le plus bateau possible. Est-ce qu'on peut aller faire un pique-nique? Il fait trop chaud, j'ai pas envie de travailler. Alors, ça me fait de l'analyse de ce que j'ai dit. Votre interlocuteur se sent d'humeur un peu fatigué. Il trouve qu'il fait beau, faudrait aller netto. Ok, super. Mais ça m'envoie le message dans plusieurs styles. Donc, un style, si j'envoie par exemple à mon patron, donc très droit, si j'ai envie de l'envoyer avec des emojis, donc ça me réécrit mon message avec des emojis ou avec des hashtags, en fait, voilà.
Et ça, c'est un outil made in Samsung aussi, parce que pour le coup, c'est des outils comme Copilot, par exemple.
Ils
proposent ça maintenant.
Ils ont des partenariats avec Microsoft pour faire de la liaison, ils ont des partenariats avec Google pour faire de la liaison. On comprend que leur partenaire, dont ils ne veulent pas citer les noms, c'est Microsoft et Bard. Mais voilà, pour l'IA, en tout cas, les pensées pratiques, un intérêt. Et ça, Google avait commencé à essayer de le montrer dans les pixels. Certaines fonctions sont en local.
Ok, donc t'as pas besoin de réseau.
Mais,
notamment la traduction en temps réel.
Ça, c'est vachement
bien.
Il y
a du local et il y a du cloud. Il y a des trucs en cloud. Tout ce qui est photo, ce sera en cloud parce que ça nécessite beaucoup de puissance, comme chez Google. La traduction, il y a beaucoup en local. Tout ce qui va être les notes, le côté résumé de notes, ça peut être calculé en partie en local ou en cloud. Ça, c'est pas mal. Et ça, c'est permis parce que dans le ultra, et ça, ce sera vraiment pour l'ultra seulement, il y a le Snapdragon 8 Gen 3 qui a une énorme
capacité
IA. Ouais. Ça, c'est aussi une nouveauté. Le S24 et le S24 Plus sont sous Exynos.
Ah ouais, d'accord.
Enfin, en Europe.
La puce maison de Samsung.
En Europe. Aux États-Unis, ils sont évidemment
c'est
sous Snapdragon.
Qualcomm.
Il y a que la grosse puce, elle est que pour le Ultra.
Mais c'est intéressant parce que j'ai lu que le Galaxy S23 allait avoir une mise à jour qui lui permettra d'avoir certaines fonctionnalités IA.
Ben oui, parce qu'il est sous Snapdragon 8 Gen 2.
D'accord.
Et donc je pense qu'en fait, il y a des passerelles qui sont faisables. Est-ce que le Exynos, on ne sait pas. A priori, c'est le 2400. Leur précédent Exynos, qui était dans le S21, que je ne vous dis pas de bêtises, ou S22, n'était pas terrible. J'espère que celui-là est un peu amélioré, notamment au niveau de l'autonomie. Là, ils nous ont promis que ce serait beaucoup amélioré au niveau de la batterie. Sur le Exynos, ça n'a jamais été le point fort. Donc, on attend de voir. Snapdragon, ce sera a priori un peu mieux.
Et on parlait de l'architecture, un petit peu de la puce. On sait qu'ils étaient en retard par rapport à ce que faisait le Pixel 8 ou encore l'Apple Silicon. Ouais. Avec le premier processeur qui a une fréquence, une finesse de gravure à 3 nanomètres, on ne sait pas où ils en sont.
Et sur l'Exynos, on n'a rien eu, par exemple. D'accord. Donc ça, c'est un peu le truc. On sent qu'ils se sentent toujours obligés de faire un S24, qui est un tout petit peu plus petit, un S24+, qui est une amélioration du S24, et le Ultra, qui est vraiment décalé. J'ai oublié de dire, sur les photos, par exemple, on reste sur la même chose. 3 capteurs photo pour le S24 et S24+, 4 pour le S24 Ultra. Sauf que, grosse différence par rapport à l'année dernière, il y a deux zooms, souvenez-vous, sur le S24 Ultra. On passe de x5, x10 à x3, x5. x5, c'est comme l'iPhone Pro, 15 Pro Max.
Donc, on perd en zoom, finalement ?
Oui. Alors, eux, ils te disent que tu vas gagner en capteurs. Mmh. Alors, c'est des capteurs de 50. Mais que tu gagnes parce que l'IA intervient, parce qu'ils sont capables de faire du x10. Voilà, en retouche derrière. En gros, ils disent que leur x10 aujourd'hui, qui n'est plus un optique comme l'année dernière, fait aussi bien. Parce qu'au lieu de capter en 50, tu passes en 12 et que c'est très bien.
On est d'accord que ça prouve aussi une chose, c'est que c'est le point mort en termes d'innovation hardware.
Mais c'est un peu le message.
On est d'accord. Heureusement qu'il y a ce maquillage IA, parce qu'autrement, franchement...
C'est ce qu'on disait depuis des mois et des mois. C'est-à-dire que ça ronronne sur le marché des smartphones. Les innovations, les vraies innovations de rupture, ça manque quand même clairement. Et là, l'IA arrive vraiment pile au bon moment pour relancer et probablement rebooster les ventes. C'est vrai pour les smartphones, c'est vrai aussi pour les PC, hein, les fabricants de PC dont les ventes étaient en train de s'effondrer, je ne sais plus, 15%, c'était énorme. Là, mise à fond, on en a vu au CES, des puces dopées à l'IA des PC dopés à l'IA grâce à des puces de nouvelle génération, etc. Donc ça va être un argument marketing et un gros argument commercial pour tous ces fabricants.
Mais c'est vrai que là, il faut au moins leur accorder l'idée de chercher à mettre en avant une IA utile. Seulement, il y a un truc, il y a une rumeur, et ça, personne n'a été pour le moment capable de nous confirmer ou pas, c'est qu'apparemment, toutes ces fonctions à l'IA, elles sont gratuites pour le moment. Mais elles ne dureraient pas longtemps.
Non, c'est pas vrai.
Il y a une rumeur qui veut qu'en gros, passé 2025, tout deviendrait payant.
Avec un abonnement.
Comme Copilot.
Tu mets 1500 euros dans un téléphone et on te fait payer des fonctionnalités.
C'est chaud.
Donc
ça paraît compliqué après ça dépend des fonctionnalités qu'ils te proposeront aussi parce que tu vois par exemple si t'as le Pixel 8 Pro aujourd'hui je pense pas qu'ils mettent un truc payant à terme et si l'un ne le fait pas les autres ne le feront pas non plus pareil c'est évident tu vas pas te mettre à payer si le concurrent il te propose la même chose gratuitement
Puis comme tu vois qu'il y a une version payante de ChatGPT tout le monde doit se dire waouh on va tenter les gars on va voir un peu
et en fait Samsung met pas tous ses œufs dans le même panier, hein, puisqu'ils, vous le savez mieux que moi, ils ont régulièrement d'autres gammes et de téléphones flip.
Et en plein milieu de l'été, il y a la gamme des clients.
Voilà. C'est plutôt le côté innovant pour
un petit peu plus innovant.
Mais ils vont être poussés à innover parce qu'on attend énormément de smartphones pliants en 2024. Et donc forcément, ça va les forcer à bouger. Mine de rien, ils ont déjà bougé sur l'écran façade parce que Motorola, on peut dire ce qu'on veut, du Razer, mais le Razer 40 Ultra arrive avec un écran beaucoup en façade, donc replié, beaucoup plus intéressant à utiliser parce que beaucoup plus grand. Ils ont augmenté. Là, clairement, ils ont la pression de Google et de Pixel 8 Pro.
Alors, tu as vu le Honor Fold, incroyable
ce téléphone. Le Magic V2 est magnifique.
Il est d'une finesse.
Il est
mais il enterre Samsung, mais c'est incroyable.
Mais voilà, et en fait, ils ont une concurrence qui arrive sur la partie où ils étaient les plus innovants. Donc maintenant, les Galaxy S24, qui sont quand même ceux qui se vendent le mieux dans le haut de gamme chez eux, il faut y aller. Hein, parce que là, on a les mêmes que le S23 avec de l'IA.
Il y avait une autre rumeur qui voulait que les S24 aient 7 années de mise à jour logicielle et de correctif de sécurité, de mise à jour Android, etc. Ce qui était un vrai...
Comme le Pixel.
Comme le Pixel, on y va.
Donc, a priori, on y va. Aussi, accessoirement.
iPhone, c'est 6 ans, je crois. C'est ça
en fait, l'iPhone ne donne jamais... ne donne jamais de date.
C'est
parce qu'on s'aperçoit qu'au bout de
6 ans, il est obsolète.
Ils ne sont plus mis à jour. Mais ce qui est déjà énorme. On attend de voir 7 ans parce qu'il faudra quand même voir. Pour le moment, ils peuvent faire les annonces.
7 ans, c'est long.
C'est long, 7 ans de mise à jour. Ça veut dire que ça peut les obliger.
Mais s'il y a bien quelque chose à saluer de la part de Samsung, c'est vrai, tu confirmes cette mise à jour de 7 ans?
Alors, je ne confirme pas parce qu'ils l'ont laissé entendre. Qu'il y aurait, en gros, ils s'aligneraient sur ce qui fait le mieux sur le marché.
Ça irait dans le sens de l'histoire.
Le mieux sur le marché, c'est Google. Donc, c'est 7 ans. Et ils sont obligés.
C'est cool quand même.
C'est énorme. Franchement, ouais. Pour le coup, c'est bien.
Attention, c'est pas des mises à jour de sécurité. Hein.
Non, c'est du
logiciel. Ça veut dire qu'on aura que tu peux avoir les nouvelles versions d'Android pendant 7 ans.
Alors, en gros, c'est en général, on dit 7 ans, mais c'est actuel, donc 2014.
C'est général.
2014.
2024.
Android 14, pardon.
Ah, pardon.
Et,
ah oui.
Et 6 ans de plus.
Ouais. Oui.
En fait, c'est 7 ans quand on a celle-là.
Ouais, mais c'est déjà plus, énorme. Enfin,
ah non, mais
c'est
honnêtement,
super.
Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses. Mais c'est aussi symbolique du fait que les puces... Parce qu'en fait, c'est pas juste... on ne vous donne pas plus de mises à jour parce qu'ils n'ont pas envie. C'est souvent que les processeurs ne sont pas aptes à
oui,
suivre d'autres
sûr.
Mises à jour.
Et puis, il n'y a pas assez de mémoire vive aussi.
Voilà. Aujourd'hui, Apple peut se le permettre parce qu'ils savent qu'ils conçoivent leurs puces depuis des années. Et donc, ils peuvent faire des mises à jour en conséquence. Quand on prend Snapdragon 8, Gen 1, 2, 3, on sait qu'il y a là une base commune qui permet de se dire qu'à 4, 5, 6... Oh, ça s'appellera peut-être autrement d'ici là. Mais il y aura toujours un socle suffisant pour certaines mises à jour.
Bon, voilà ce qu'on pouvait dire concernant le Galaxy S24. À noter que dans Tech & Co, j'ai reçu mercredi soir l'un des directeurs de Samsung qui nous présentait en fait toutes les nouveautés de ce Galaxy S24. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est dans le replay de Tech & Co, c'était mercredi. Merci beaucoup Melinda. Ouais. On te laisse retourner à la rédaction. Et je garde Olivier Frigara et Anthony Morel pour notre deuxième partie de Quoi je me mêle, où là on va revenir un petit peu sur Apple, puisqu'Olivier est avec nous. On va parler d'intelligence artificielle, de Rabbit aussi, cet objet étonnant qui a fait couler beaucoup d'encre pendant le CES, alors qu'il n'a pas été présenté pendant le CES. C'est ça qui est assez étonnant. La suite de Quoi je me mêle, tout de suite après ceci.
De Quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, De quoi je me mêle, deuxième chapitre. Merci d'être avec nous. N'oubliez pas tout à l'heure à la fin le petit module bonus. Notre bonne résolution de cette année 2024 se poursuit. Quelques minutes supplémentaires exclusivement accessibles en podcast audio. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur les 40 ans du Mac, ce sera le petit cadeau que nous fera Olivier Frigara tout à l'heure, puisqu'on fête les 40 ans du Mac, ça sera le
24 janvier.
Olivier Frigara, donc, que vous connaissez, auteur du podcast On refait le Mac, et puis bien évidemment Anthony Morel qui est toujours avec nous. On va parler d'Apple dans quelques instants, on va parler d'IA, mais pour débuter, parlons d'IA avec un produit qui a fait sensation. Alors c'est toujours pareil, hein. C'est vrai que c'est, vous savez, il y a parfois des produits un peu fantômes dont on n'a pas eu véritablement les fonctionnalités, qu'on n'a pas pu toucher, mais qui fait un buzz incroyable. Et ce produit, le Rabbit, coche toutes les cases, hein. On ne l'a pas eu en main,
non.
On a entendu parler de ce produit-là, on a vu des articles faits par des journalistes américains qui ont pu le prendre en main, et franchement, on a l'air tous assez séduits par ce nouveau type de produit.
Bah, interpellé, en tout cas, moi, ça me fait un petit peu saliver cet appareil donc, qui a été présenté en marge du CES. En fait, on sait que dans des suites d'hôtels, certains ont pu le prendre en main. Et c'est vrai qu'il a, c'est un des objets qu'on le plus fait parler lors de la semaine du CES. Et d'ailleurs, on avait dit qu'on vous en parlerait la semaine dernière quand on était là-bas. On n'a pas eu le temps. Et donc, on se rattrape un petit peu cette semaine. Pour le dire en un mot, c'est une sorte de petit assistant personnel, une sorte de majordome que vous allez porter dans votre poche. En gros, c'est un boîtier rouge-orange, des formes très arrondies pour ceux qui nous écoutent. Hein, je vais essayer de le décrire un petit peu. On dirait une console de jeu rétro, moi ça me fait penser à ça. Ou un jouet pour enfants, parce qu'il y a vraiment des
oui,
formes
c'est
comme
vrai.
Ça.
Tu sais à quoi ça me fait penser?
Vas-y.
Mais c'est l'iPod de l'IA.
Il y a un petit côté iPod, ouais. Il y a un petit côté iPod. J'aime bien, moi, le côté très... enfin, ouais, le côté rétro, un peu comme ça, je le trouve très sympathique. Il y a un petit écran à la surface de cet appareil. Et puis surtout, tu as des micros, une caméra et une intelligence artificielle embarquée qui va permettre de répondre à n'importe quelle requête. Tu vas lui parler et il va te répondre. Alors tu vas me dire, oui, on a déjà des Amazon Echo, des Google Home, c'est pas nouveau. Sauf qu'à l'ère de l'intelligence artificielle générative, tu vas pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus loin dans l'interaction que tu vas avoir avec cet appareil qui a vocation, nous disent ses créateurs, à remplacer les smartphones. On verra. Mais en tout cas, l'idée, c'est que cet appareil, il va utiliser les applications comme le ferait un être humain. Je te donne quelques exemples concrets. Tu lui dis, je veux partir en week-end en Corse, Je veux passer.
Choix.
Très bon choix.
C'est une, plutôt une bonne idée, mon cher Anthony. Voilà. Et tu peux compter sur nous, mais Olivier et moi, pour te donner les bonnes adresses.
Je sais bien. Alors, l'IA va elle aussi nous aider pour ça. Donc, je veux passer un week-end en Corse. Je veux que le premier jour soit à Ajaccio, le deuxième jour à Calvi.
Très bon choix.
Je ne veux pas dépasser un budget de 500 euros. Et puis, il me faudrait une voiture pour aller d'un endroit à un autre, évidemment. Et en fait, c'est l'IA qui va s'occuper de tout ça. C'est-à-dire qu'elle va aller sur l'application pour réserver l'hôtel, sur l'application pour te trouver le trajet optimal, sur l'application pour te louer la voiture. Et à la fin, elle te fait un petit résumé. Elle te dit, est-ce que vous voulez valider tel budget pour aller de tel endroit, à telle date ? En fait, elle a fait exactement comme si toi, être humain, t'avais passé une heure sur les différentes applications, sur les sites internet à faire tes recherches. Sauf que là, c'est l'appli, enfin, c'est ce petit outil, ce petit rabbit qui le fait pour toi, comme si c'était une sorte d'assistant virtuel extrêmement, extrêmement poussé. Donc, sur le papier, c'est extrêmement séduisant parce qu'en gros, tu vas pouvoir lui demander absolument n'importe quoi et il va aller, c'est lui qui va aller fouiller dans les méandres des sites et des applications pour réaliser tes moindres désirs.
En gros, c'est ça, simplifier la requête, c'est-à-dire que tout ce dont on demande aujourd'hui sur un appareil, on pourra le faire à la voix de manière totalement naturelle et l'intelligence artificielle va pousser en fait l'exercice jusqu'à des niveaux inédits.
Exactement.
Les exemples que tu donnes aujourd'hui, c'est impossible à
bien
faire.
Bien sûr. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux demander à ChatGPT ou à Bard, tu peux lui dire qu'est-ce que tu me conseilles si je dois passer deux jours en Corse,
oui,
propose-moi
voilà.
un
Mais
itinéraire.
Il ne va pas te commander l'avion, il ne va pas te commander l'hôtel, il ne va pas te gérer la voiture.
Exactement.
La promesse, c'est que ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite, hein, d'après la keynote qu'ils ont fait. Hein. Mais qu'est-ce qu'on sait de cette boîte, de ces startups qui sort de nulle part aujourd'hui ?
On ne sait rien. On ne sait vraiment pas grand-chose. C'est vrai, c'est assez surprenant. Surprenant d'ailleurs, hein, le fait qu'ils sortent comme ça du bois avec un moteur maison visiblement. Ouais. Alors ils appellent ça un langage d'action. Alors c'est pas un modèle de langage, c'est un modèle d'action. Et ils mettent l'un en opposition avec l'autre d'une certaine manière. C'est-à-dire on ne se contente pas d'analyser vos requêtes et d'y répondre. C'est qu'on est capable d'agir comme le ferait un être humain. Et c'est vrai que les démos qu'ils ont publiées sont assez dingues, en plus des vidéos de ce petit appareil. C'est-à-dire que tu vois en fait comment l'algorithme voit les différentes options sur les sites. C'est-à-dire, quand tu te connectes à un site, tu as des cases, tu vas cocher certaines options, les décocher, cliquer sur tel ou tel onglet. Et en fait, tu vois l'algorithme qui analyse la présence de tel et tel onglet, de telle case. Et il est capable, en fait, de comprendre cette interface, n'importe quelle interface, en fait, comme le ferait un être humain. C'est ça, la puissance de cet algorithme.
Ce qui est intéressant, c'est la démo qu'il y a derrière toi qui tourne. C'est aussi l'analyse visuelle. Hein. C'est-à-dire
Absolument.
Que... on regarde un frigo, il va nous donner la recette. Bon, alors bon, ça, je trouve que c'est un peu anecdotique, mais finalement, ça a l'air de marcher.
Tu lui montres Rick Astley et il te chante...
Never gonna give you up.
Ah oui, tout le monde va la rendre dans la tête. Comme
on reste dans les 40 ans, c'est parfait.
Il y a aussi le comédien d'Oppenheimer là, qui a été détecté.
Ouais.
Mais moi, alors, je me dis, effectivement, c'est cool. C'est un petit objet qui a l'air sympathique. Mais finalement, notre smartphone pourrait tout avoir... intelligence.
Tout à fait.
C'est-à-dire que demain, on peut avoir une appli Rabbit sur son smartphone.
Et voilà.
Et adieu le produit, quoi.
Ouais, absolument. Alors, c'est toute la question. On
discute. Et la puissance des processeurs des téléphones qui est bien supérieure.
En fait, l'argument que mettent en avant les créateurs de cet appareil, c'est que justement, eux, ils estiment qu'on passe trop de temps sur les écrans et que ça va nous permettre d'avoir accès à tout ce qu'on peut faire quasiment sur un smartphone, mais sans avoir justement cette distraction, le doom scrolling,
etc. En proposant un écran supplémentaire. C'est
voilà. Mais ouais,
paradoxal,
c'est ça.
Ouais. Non, parce que tu auras toujours ton smartphone, je suis désolé.
Mais évidemment. Enfin, je veux dire, l'usage le plus important du smartphone, c'est quand même la consommation de contenu, c'est de regarder des vidéos, etc. Mm. Ça, tu ne pourras pas le faire avec un appareil comme celui-ci. Donc, ça montre quand même les limites.
Mais le moteur, c'est quoi ? C'est ChatGPT aujourd'hui, le moteur derrière ?
Non, visiblement, ils ont une IA maison.
D'accord. Moi, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est leur concept de terrier. Je ne sais pas si tu as vu.
Oui, le rabbit hole.
Voilà, c'est que quand tu arrives sur ce marché-là, il te faut un écosystème, il te faut un App Store ou un GPT Store. Et là, il te propose de te connecter directement sur les services existants via du web. Hein. Il n'y a pas d'application à installer. Et en gros, on peut écouter et linker via un ordinateur son Rabbit à Spotify, à Apple Music, à Uber, etc. Donc, du coup, on se retrouve avec un écosystème qui est majeur, alors que normalement, quand on arrive sur ce marché avec un nouveau device, il faut conquérir et convaincre les développeurs. Et ils n'en ont pas besoin, apparemment.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'IA est assez intelligente pour, en fait, gérer les applis comme nous.
Ouais. C'est ça, c'est incroyable. Exactement ça. Et c'est toi qui lui donne. C'est-à-dire qu'il faut quand même configurer un minimum. C'est ce que tu disais via ce rabbit hole là. Tu dois connecter quand même à ton compte Spotify, à ton compte Uber. Et à partir du moment où tu as fait ça, bah effectivement, tu as juste à lui dire appelle-moi un Uber à telle adresse, à telle heure. Et en fait, c'est lui qui va aller sur l'application et gérer l'interface. Ce qui est quand même pas mal. Enfin, je veux dire, c'est assez, l'effet waouh est assez saisissant.
Mais c'est concrètement la matérialisation de ce que devraient faire nos téléphones, j'espère, dans quelques mois, quelques années.
Mais c'est là, alors c'est vrai que c'est sympa, hein, et puis bon voilà, c'est plutôt cool, mais je vois pas l'avenir à ce produit-là, parce que évidemment tout ça va arriver dans un smartphone, peut-être que même c'est un joli coup de com' et qu'Apple va regarder ce qu'ils font et qu'ils vont acheter leur solution.
Enfin, j'achète.
Tu disais tout à l'heure qu'ils étaient à la bourre en termes d'IA, Apple, carrément. Là ils ont une offre, tu vois, ils pourraient demain, un claquement de doigts,
intégrer
dire,
ça dans le smartphone.
Votre device, on le met à la poubelle là, et on intègre ça dans l'iPhone, tu vois.
Oui, ils sont pris en étau entre les smartphones et puis de l'autre, quand tu arrives à la maison, l'ensemble des assistants vocaux et des enceintes connectées qui... théoriquement, pourrait jouer ce rôle également. On sait qu'Amazon travaille également sur son propre système et puis Google aussi avec Bart. Donc,
je suis d'accord. Mais ouais. je trouve qu'en fait, ce device... Alors moi, c'est pareil. Je ne lui prédis pas un grand avenir, malheureusement. Je pense qu'il va y avoir un effet buzz. Mais je trouve qu'il pose une question intéressante.
Bien sûr.
Il pose la question en fait, du form factor qui va être lié à l'émergence de l'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire, est-ce que finalement, le smartphone qu'on a dans nos poches, c'est l'alpha et l'oméga de l'interface qu'on va avoir avec la machine, ou est-ce qu'on va inventer plein de nouveaux objets qui nous permettront d'interagir avec la technologie? On a beaucoup parlé aussi de l'AI PIN. Hein, vous vous souvenez de ce petit badge connecté qui a été créé par des anciens d'Apple d'ailleurs, et qui lui aussi se veut une alternative au smartphone. C'est exactement la même philosophie.
On en parle moins d'ailleurs là. Hein.
Ouais, bah je crois qu'ils ont fait un plan social d'ailleurs, donc c'est un peu chaud, tu vois.
Ouais, c'est clair.
Ah non, mais se lancer dans le hardware avec un projet aussi ambitieux, c'est compliqué. Donc
alors
là, c'est
derrière, il y a des ex d'Apple. Hein.
Exactement. Enfin, c'est une très très belle équipe.
Notamment, ouais.
Effectivement. Non, mais tu vois, est-ce que vraiment on va pas imaginer plein d'autres objets? Moi, je crois beaucoup aussi au retour des lunettes connectées façon Google Glass, qui pourrait aussi être une autre manière d'interagir avec l'IA.
Quand tu vois que Sam Altman et Jonathan Ive sont en train de préparer un device aussi avec ChatGPT à l'intérieur, tu te dis waouh,
qui pourrait d'ailleurs prendre la forme de lunettes. Enfin, c'était des rumeurs aussi
pour venir à Wabbit, on peut penser qu'ils pourraient très bien licencier leur écosystème et proposer à des fabricants qui ne veulent pas s'associer avec un Google ou avec un Amazon
ou alors une appli, tu vois, avec un abonnement.
Exactement.
Tout est possible.
Et puis on peut aussi imaginer que les outils existants, donc OpenAI avec ChatGPT ou Copilot dans la voiture, c'est aussi, je veux dire, des technologies sur lesquelles ils vont bosser. C'est-à-dire que c'est l'aboutissement ultime, finalement, d'un outil comme Copilot. Serait de pouvoir faire ce genre de choses.
Moi, ce que je trouve rassurant en tant que vieux fan, puisque je suis aujourd'hui le vieux fan du Mac, on va parler des 40 ans du Mac, c'est qu'une petite boîte comme celle-là qui sort de nulle part, qui est capable de produire une chose pareille en termes d'IA... Quand on voit les moyens colossaux qu'a un Apple, un Google ou un Amazon,
qui
sont largués, ça veut dire que voilà, en quelques mois ou en quelques mois, ils peuvent rattraper un retard considérable.
Intéressant. On verra bien. Hein. Alors voilà, on prédit pas forcément un véritable succès à ce type de produit, mais en tout cas, ça pose la question, ça ouvre des chemins, on va dire.
Exactement.
Et c'est ça l'innovation technologique.
Hein. Bien sûr.
C'est de essayer de défricher un petit peu. Et après d'arriver à quelque chose de plus concret.
C'est exactement ça. Ça me fait penser un peu à toute la philosophie du CES dont on parlait la semaine dernière, c'est-à-dire que probablement 80% des produits qu'on a vus au CES
disparaîtront,
mais ça ouvre des jalons. Ça pose des jalons pour plein d'autres. C'est des sources d'inspiration extraordinaires. En fait.
On est d'accord. On va parler d'OpenAI aussi, puisque l'actualité est assez importante concernant OpenAI. Alors Anthony, tu en parles régulièrement dans Good Morning Business. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette semaine concernant OpenAI et ChatGPT?
Alors, il y a deux choses, moi, qui m'ont frappé. D'abord, c'est le lancement officiel du GPT Store. On l'avait évoqué au moment où il avait été annoncé, mais là, c'est le lancement officiel pour les gens qui sont abonnés, donc qui ont un abonnement payant à ChatGPT. On a accès à cette boutique d'applications, à cet App Store de l'intelligence artificielle, qui est assez intéressante, mine de rien. Je suis allé me promener un petit peu. Donc, en gros, le principe, c'est d'avoir des mini ChatGPT, mais thématiques, qui vont être proposées par n'importe qui. D'ailleurs, ça peut être des développeurs, il n'y a même pas besoin d'avoir vraiment des bases en codage, puisque ça se fait en no-code d'ailleurs. Mais tu vas pouvoir proposer ton GPT personnalisé en utilisant évidemment le moteur d'IA générative d'OpenAI et en le couplant avec des données dont tu peux disposer. Alors ça peut être des choses diverses et variées. Ça peut être par exemple une IA spécialisée dans les jeux de société. société qui va t'expliquer de manière très didactique toutes les règles de tous les jeux de société qui existent sur Terre. Ça peut être, moi j'aime bien la course à pied, une IA coach en course à pied qui va te faire des plans d'entraînement ultra personnalisés. Et en fait, n'importe qui va pouvoir comme ça proposer son chatbot avec des thématiques, des entreprises aussi. On peut imaginer hein, que, en gros, ils utilisent le moteur de ChatGPT, qu'ils couplent ça avec la masse de données dont ils disposent eux. Et ça va faire un ChatGPT spécialisé pour les effectifs de cette entreprise en particulier. Enfin voilà, il y a plein de cas d'usage possibles. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et là aussi, c'est une piste de diversification, on va dire, pour OpenAI et pour ces intelligences artificielles qui vont de plus en plus s'inviter dans nos vies quotidiennes.
Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi les
écosystèmes. L'iPhone est parti de ça. J'en reviens toujours à Apple, mais l'App Store, ça a été l'étincelle qui a fait tout exploser. Hein, et voilà, pour moi, c'est un potentiel énorme, énorme. Ouais.
Exactement.
C'est clair. C'est la vie. On va dire que c'est le deuxième acte, chapitre d'OpenAI avec ChatGPT. Hein.
Et sachant que tout ça sera monétisable, c'est aussi ça. On n'a pas parlé de cet aspect-là, mais tu vois, tu vas avoir des développeurs qui vont proposer des chatbots avec l'idée de avoir des modèles économiques de partage entre OpenAI et puis une partie. Alors, je ne sais pas quel sera le pourcentage, mais en tout cas, ça va aussi inciter, tu vois, des gens à innover, à créer des chatbots sur plein de thématiques diverses.
Et le Store GPT, il est accessible là, dès maintenant en France, par exemple.
Si tu tapes GPT Store, tu y as accès. Alors après, le truc, c'est que pour avoir accès à ces mini chatbots, il faut quand même être abonné payant.
Ah d'accord.
Tu peux voir, sinon tu peux voir leur intitulé, tu n'y auras pas accès. Voilà, c'est ça le truc.
Intéressant.
Vraiment pas mal.
La deuxième actu, alors là, elle est intéressante puisque OpenAI prend conscience un petit peu, on va dire, de la puissance de son moteur d'IA et propose et annonce des mesures justement pour éviter la désinformation.
Absolument. En fait, à l'approche de l'élection américaine, là, il y a quand même un gros sujet démocratique qui se pose. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de médias américains qui commencent à s'interroger sur ce truc-là, c'est-à-dire la puissance de l'intelligence artificielle et comment elle va avoir un impact et peut-être même dérégler l'élection d'une certaine manière.
Après la catastrophe réseaux sociaux, on s'en souvient lors de la précédente élection.
Évidemment, enfin, tu vois, ça peut avoir un impact. Et il y a déjà des cas d'ailleurs assez intéressants. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, une candidate démocrate, alors je crois que c'est au Congrès pour le coup, qui a utilisé un voicebot, donc un chatbot avec une voix, pour appeler des milliers et des milliers d'électeurs pour présenter son programme. Donc tu vois, en fait, c'est une sorte de détournement des outils d'intelligence artificielle au bénéfice d'une propagande dans un camp comme dans l'autre, quoi, si tu veux. Mais en tout cas, c'est un outil maintenant dans l'arsenal électoral des candidats. Alors, il y a eu un autre cas où c'est... Alors, Ron DeSantis, c'est un adversaire de Donald Trump pour l'investiture républicaine, où en gros, son équipe a créé un deepfake où on voit... Donald Trump, donc son adversaire politique, prendre dans ses bras Anthony Fauci, alors qui était le monsieur Covid américain et qui est l'ennemi juré du camp républicain, en gros. Donc, tu vois Donald Trump qui prend ce mec dans ses bras, et donc c'est un message envoyé aux républicains, vous voyez, il y a un copinage, etc. Sauf que c'est un deepfake, mais ils n'ont jamais dit, l'équipe de Ron DeSantis, donc c'est des gens qui sont des politiciens professionnels, n'ont jamais dit que c'était un deepfake. Ils ont utilisé un trucage généré par une intelligence artificielle pour tromper une partie de l'électorat.
Ça, c'est condamnable, en revanche.
Évidemment, c'est quand même problématique. Mais en tout cas, la question, c'est comment est-ce qu'on permet de réguler tout ça.
Et donc, c'est une forme de diffamation.
Exactement, c'est une forme de diffamation. Donc OpenAI a dit, attendez, nous, on est conscient des dérives que ça peut générer. Donc on va prendre un certain nombre de mesures. Donc par exemple, des outils comme DALL-E, donc, qui dépendent d'OpenAI aussi, donc c'est les IA génératives d'images, ne peuvent pas générer d'images de personnes réelles et encore moins de personnes qui sont des personnes politiques. Bon, pourquoi pas. Quand tu fais des recherches sur certains thèmes électoraux sur ChatGPT, on va désormais te rediriger vers un site qui s'appelle canaivote.org ou je ne sais plus. C'est une sorte de site officiel des élections où il y a des informations qui sont vraiment très officielles et donc pour éviter les hallucinations de l'intelligence artificielle sur ces sujets. Bref, ils essayent de prendre un petit peu des pincettes et de prendre un peu les devants aussi parce qu'il va y avoir probablement beaucoup, beaucoup de critiques sur les dérives de l'intelligence artificielle pendant cette élection.
On peut dire tout ce qu'on veut sur l'Europe et le retard éventuel qu'on aurait en matière d'intelligence artificielle, mais en matière de réglementation, apparemment, c'est le bon tempo qui est suivi. Hein. Ouais. Un système ne peut pas s'autoréguler.
C'est vrai. Mais après, alors je suis complètement d'accord avec toi. Après, la question que je me pose, c'est derrière ces intentions louables, est-ce qu'il y a une efficacité réelle?
Je ne veux pas tomber dans l'administratif à outrance et empêcher l'innovation, mais il y a un juste milieu à trouver, c'est évident. Mais...
Comment savoir qu'un contenu a été généré par l'IA et un autre qui a été généré par un humain? on peut en parler pendant des heures, mais c'est ça le problème.
Alors,
que ce soit l'écrit, que ce soit l'audio, que ce soit la vidéo, les photos, en fait.
Alors, tu as tout à fait raison, et ça fait partie aussi des mesures, j'allais l'oublier, prises par OpenAI, et c'est peut-être la plus importante, c'est que visiblement, maintenant, il y aura une sorte de petite pastille. Alors, je ne sais pas si elle sera visible à l'œil nu sur chaque image ou s'il faudra aller dans les paramètres de l'image pour la voir, mais il y aura, si tu veux, une sorte de marqueur numérique qui te dira cette image a été générée par une intelligence artificielle.
Ce qui, trouver, hein.
Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est bien de le faire, sauf que on sait très bien qu'une fake
news... Les professionnels peut-être pourront le voir.
Évidemment.
Une
fois que tu auras vu l'image sur la
photo sociaux, sur Twitter, tu verras le petit point. C'est ça la question.
Et tu la verras, elle sera débunkée, mais une fois qu'elle sera débunkée, elle aura été vue un million de fois et de toute façon, la news sera déjà passée. Donc,
le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la Silicon Valley, dans cette industrie-là, que ce soit l'industrie de l'intelligence artificielle notamment, et on le voit avec Elon Musk, c'est qu'il y a un courant libertarien qui veut pas laisser faire, mais à chacun de se faire son opinion et laisser la liberté d'expression. Alors, c'est un courant, il est respectable ou pas, je suis pas là pour juger, mais en tout cas, ça pose un problème parce qu'on donne pas les clés et les outils aux lecteurs ou aux gens qui suivent des flux d'informations de savoir si c'est un fake ou c'est la réalité.
Disons que du point de vue de l'utilisateur, il faut vraiment partir du principe maintenant que tu ne peux plus faire confiance à rien. C'est-à-dire qu'en termes d'image, tu ne peux plus croire à rien. Et quand tu vois les images générées par les dernières versions de Midjourney, il y a la V6 qui est sortie il n'y a pas longtemps.
C'est impressionnant.
C'est ouf. Enfin, c'est impossible de savoir. Parce que tu sais, tu avais le truc où tu voyais, tu regardes, il y avait quand même 6 doigts sur. Enfin, tu avais des petits trucs, tu sais, qui te permettaient de montrer que l'image était pas, avait été générée par une.
J'imagine, ça va encore progresser de plus en plus.
Bien sûr.
Ce qu'on arrive à faire là, en l'an 1 ou 2 de l'IA générative, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ?
C'est
incroyable.
Et tu as vu, alors c'est pareil, il y a eu une initiative, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, c'est les fabricants d'appareils photo et de caméras, la Nikon, Sony, Canon, qui se sont alliés pour mettre au point, et ça va sortir dans les mois qui viennent, des appareils photo et des caméras anti-fake news.
Oui, avec une signature.
Avec une signature numérique, ce qui est très bien. J'allais dire que ça va servir pour les organes de presse pour être sûr qu'une photo est bien authentique. Mais je pense que derrière, ce sera impossible
pour les droits d'auteur, c'est très bien, mais après, au-delà, c'est plus compliqué.
Je suis d'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Tu as l'impression que c'est un truc qui est inéluctable, en fait. C'est très, très compliqué. Très compliqué.
Un mot pour Apple, mon cher. François, je te donne peut-être envie.
Non, mais c'est vrai. Écoutez, il nous reste 10 minutes. J'aimerais qu'on s'intéresse aussi à l'actualité d'Apple, justement, qui est assez riche. Aujourd'hui, vendredi 19 janvier, c'est le jour où les précommandes commencent pour le Vision Pro. Aux États-Unis exclusivement, mais à partir d'aujourd'hui, donc, vous pouvez aller dans un App Store, peut-être même sur le web, précommander le Vision Pro.
$3,499 hors taxe.
Hors taxe, bien sûr. Donc après, il faut rajouter les taxes américaines. Tout dépend des régions. Voilà. Bon, alors, c'est un événement, quoi qu'on dise. C'est un événement. Apple ouvre un nouveau chapitre dans son industrie avec un nouveau device qui n'a rien à voir avec les autres, qui est assez courageux. Casse-pipe, on peut le dire aussi, parce que ça va marcher, le Vision Pro. On commence à avoir des informations qui circulent. Il y a des gens qui l'ont déjà testé et qui disent que le confort n'est pas forcément top, qu'il y a quelques bugs de ci, de là. Bon, on peut pardonner Apple, ce produit sort dans les jours qui viennent. Donc, précommande 19.
On peut pardonner 4000 balles, moi je ne pardonne pas. Ça a intérêt à fonctionner.
Non, mais on peut imaginer. Alors, pour confort, ça va être compliqué de faire une mise à jour. Mais en termes de fonctionnalité, d'après ce que j'ai compris, le clavier virtuel n'est pas top, etc. Mais on peut imaginer qu'il y aura des mises à jour qui seront faites disponibles début février.
Le 2 février. Aux États-Unis. Alors, est-ce qu'on pourra l'acheter depuis l'Europe pour le tester? Ça nous dit tous.
Telle est la question.
La réponse est apparemment oui. La question, c'est ce qu'il va y avoir suffisamment, parce que tout le monde entier, tous les développeurs, toutes les grandes boîtes qui veulent le tester vont l'acheter, et je pense qu'ils vont être pris d'assaut. Et d'après les premiers chiffres, et d'après les Mick Schuco et les Mark Gurman, qui sont les leakers spécialistes dans l'actu Apple aujourd'hui, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y aurait entre 60 et 80 000 exemplaires disponibles. Ce n'est pas beaucoup à l'échelle des États-Unis. Hein.
60 000 seulement aux États-Unis.
Ah ouais.
Parce qu'ils n'avaient pas dit qu'ils voulaient en produire 1 million la première année.
Ah ouais, première année. Mais pour l'instant, le premier week-end, il y aurait que ça. Voilà. Donc, moi, j'ai pas mal de camarades qui vont prendre leur avion pour aller chercher début février leur Apple Vision Pro et pour développer dessus et travailler dessus et être prêt lorsqu'il arrivera en Europe. La question, c'est quand est-ce qu'il va arriver en Europe ? On en reparlera. Et la question, c'est est-ce qu'il y en aura pour tout le monde ? C'est pas gagné. Ouais. Voilà. Donc, puis, moi, si j'étais Apple, je jouerais un peu sur l'effet pénurie. Les queues devant l'Apple Store, ça a fait quand même, ça fait quand même les beaux jours de l'iPhone à son lancement. Mais c'est vrai que c'est important, tu l'as souligné, François. Apple sort rarement des nouvelles familles de produits.
C'est ça.
Le Mac, l'iPod, l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch. Et 10 ans après l'Apple Watch, voici une nouvelle famille.
Et alors, moi, juste pour être sûr, je parle sous le contrôle d'Olivier parce qu'il connaît beaucoup mieux l'écosystème Apple que moi. Mais moi, ce que j'avais compris au début, c'est que quand on voudrait acheter un Apple Vision Pro, il faudrait qu'on soit forcément en magasin avec un conseiller Apple qui te le fasse tester pour de vrai, parce que c'est un produit... C'est clair, il faut pouvoir l'essayer, il faut pouvoir l'adapter à sa vue, etc. Là, quand tu dis on pourra le précommander, c'est-à-dire on le recevra tel quel
Non, tu iras chercher un magasin.
Non, faudra
il faut aller le chercher dans un Apple Store.
C'est que le premier week-end, ça, je crois, non ?
Non.
Non ?
Non, tu as 25 minutes de, 25 minutes de test. Donc, c'est pas... En gros, c'est comme si tu allais chez un opticien. Hein. Pour trouver une analogie, parce que justement, on est tous autour de cette table porteurs de lunettes, et c'est ça l'enjeu. Il faut mettre des lentilles, on sait que c'est Zeiss qui est en train de les produire. Moi qui suis Pierre Métrope, Astigmate, et j'en passe, c'est des meilleurs, ça doit être assez compliqué, je demande à voir. Donc voilà, ils ne prennent aucun risque, il y aura des rendez-vous individuels, et en gros, pendant que vous êtes en train de... Il y aura un scan de votre visage, soit via Face ID, si vous le commandez, sur l'App Store ou directement dans le magasin pour qu'il soit à la fois le plus confortable possible, parce que tu l'as dit, les premiers testeurs américains, les journalistes américains qui l'ont eu en pré-test disent bah oui, c'est un peu lourd. Donc il y a quand même des petits ajustements à faire, et au-delà, il faut régler ce problème de la vision, sans jeu de mots.
Alors, autre rumeur, le Vision Pro serait disponible dans d'autres pays du monde en juin prochain. Je ne sais pas si vous avez suivi ça.
J'ai vu ça.
Il y a pas mal d'informations qui commencent à fuiter.
C'est assez logique parce que le mois de juin, vous le savez, c'est le moment où Apple fait sa grande conférence des développeurs, la WWDC. Et ça va être vraiment loin de l'Apple Vision. Donc, il faut mettre toutes les forces en route et en présence pour qu'il y ait vraiment un écosystème autour de ce casque de réalité mixte, même si on n'a pas le droit de l'appeler comme ça, parce qu'Apple veut qu'on l'appelle l'ordinateur spatial aux joies.
Ça, c'est vrai.
Enfin, c'est ce qu'on se disait la semaine dernière au CES, c'est que c'est une terminologie qui a été reprise par d'autres. Hein, au CES, vous voyez des gens qui commençaient à parler d'informatique spatiale.
Voilà, donc l'enjeu, c'est de disposer d'un écosystème et qui est plein d'applications. Et au-delà, c'est les développeurs qui vont développer les usages, comme ça a été le cas avec l'iPhone. L'iPhone s'est vendu au départ comme un smartphone, et puis après, c'est vendu comme un Shazam, comme un Uber, comme un... voilà, les usages sont développés grâce à l'écosystème des développeurs, et Apple veut faire la même chose. Et c'est ça le vrai enjeu début février, c'est un Apple Vision Pro au début. Pourquoi faire ? On parle d'ordinateur spatial, je pense que ce sera plus dans un premier temps un outil de consultation, notamment pour les vidéos, pour le cinéma. On sait qu'Apple veut plutôt privilégier ça dans un premier moment. Apparemment, l'effet serait waouh avec les deux écrans 4K intégrés. Il a signé un accord privilégié avec Disney notamment. On sait que Warner suit avec HBO.
Tu as raison. Est-ce qu'il y aura du contenu ? Ça va être captivant ? Est-ce qu'il y aura la killer app qui fera que waouh, tu seras scotché par ce truc-là ?
Je pense pas.
Après, voilà, c'est ce qu'on dit et on répète. Hein, Apple est sur la ligne de départ d'un marathon qui va durer des années et des années. Ils prennent beaucoup de risques avec ce type de produit. C'est peut-être un produit qui arrivera à maturité dans 5 ans, 10 ans, on ne sait pas.
Avec sûrement des versions sur lesquelles ils sont déjà en train de travailler, qui sont miniaturisées, qui sont moins chères.
Moi, je suis assez critique envers Apple. Alors, j'aime beaucoup leurs produits, mais je suis assez critique sur plein de choses. Mais là, j'avoue qu'ils ont du courage de se lancer dans une nouvelle gamme de produits, de dépenser des milliards et des milliards dans ce truc-là, sans trop savoir où ça va les mener. Alors, même s'ils ont une vision à terme, à 5-10 ans, je pense qu'ils ont des prospectivistes qui arrivent à dire, ben voilà, dans 10 ans, ce sera comme ça. Mais les risques sont énormes, beaucoup plus que pour un smartphone, plus que pour un Mac ou pour un iPad.
Ouais, je suis d'accord sur ton constat.
Ça
peut être un échec. Après, à l'échelle d'Apple, à l'échelle d'une entreprise comme Apple,
c'est moins dramatique.
C'est quand même, voilà, le pari, même si c'était une catastrophe industrielle, ils s'en remettraient, tu vois.
Ça montre un changement de paradigme entre Steve Jobs et Tim Cook. Steve Jobs, il cherchait à sortir une application et tout de suite nous dire one more thing. Effet waouh, on se souvient tous du lancement de l'iPhone et l'arrivée de l'écran multipoint, le fait d'utiliser ses deux doigts. On n'avait jamais vu auparavant la possibilité de zoomer en pinçant un écran de téléphone. La stratégie de Tim Cook, et on l'a vu déjà avec l'Apple Watch, il n'y a pas d'effet waouh. On y va de manière incrémentale. On sort un produit, une plateforme et on monte en puissance. J'espère simplement qu'à 3490 $, hors taxe, il n'y ait pas un effet trop déceptif qui ferait qu'on n'arriverait pas à faire décoller cet écosystème.
Voilà. Non, mais moi, là où je suis d'accord avec vous, c'est que ce qui va faire la différence, c'est les contenus. Et aujourd'hui, je pense que ça manque d'une killer app. On ne voit pas, au-delà du côté, effectivement, regarder un film, et ça va être extraordinaire de ce point de vue-là, je pense
aussi.
Mais il faut que ce soit plus que ça. À 3 400 euros, il faut que ce soit plus que ça.
Bien sûr, bien sûr.
Et là, on a un gros point d'interrogation quand même, quoi.
Oui, mais ça va être de la consultation. On sait qu'Apple a beaucoup d'ambition. On en parlait déjà dans cette émission, dans les droits sportifs. Donc, imagine l'immersivité, je sais pas, ou l'immersion qu'on pourrait avoir dans un Grand Prix de Formule 1, par exemple, filmé en 360 et filmé en 4K avec pour le Vision Pro. On sait qu'ils veulent acheter les droits, le football. Voilà, moi, j'y crois. Après, il y a un vocabulaire, un langage artistique à créer autour du cinéma, autour de la production, pour que les séries demain d'Apple TV Plus tire partir de ça, parce que adapter, c'est pas juste regarder Avatar sur son application.
Ouais, bien sûr.
Donc il faut concevoir des contenus.
On verra bien. On va essayer d'en choper un, hein, de ce Vision Pro, pour tout vous dire. C'est pas évident, mais je pense qu'avec toutes les forces en présence, peut-être qu'on pourra essayer d'en avoir un. On vous promet rien, et puis après, on espère aussi que le service de presse d'Apple pourra nous distiller quelques petits exemplaires.
Je crois aussi. Leur priorité, c'est vraiment les US là pour l'instant.
Le mot d'ordre, c'est simple, hein, c'est que voilà, c'est par pays, donc on distribue tout à la presse que lorsqu'il sera disponible dans notre pays.
Alors il nous reste une minute, hein, ça va être court, mais tout ça dans un contexte où Apple est vraiment en difficulté en Europe, notamment avec le sideloading. Bientôt, à partir du 7 mars, en raison du DMA, Apple va être obligé de scinder son App Store. Hein, ça, c'est quand même un événement qui, chez Apple, doit être difficile à avaler, quand même. Et puis, ça va faire boule de neige, cette histoire-là. Hein. Au bout d'un moment, le sideloading va arriver aussi dans d'autres pays, et sans doute aussi aux États-Unis. Parce qu'on le voit, Apple, même aux États-Unis, commence à être pointé du doigt. Donc,
ça craque de partout quand même.
Craque de partout.
Et c'est intéressant de voir que c'est sous la pression de l'Europe. Hein, que ce soit sur le sideloading, sur l'USB-C, il y a quand même... On leur a mis des petits taquets, là.
Franchement, là, j'imagine Thierry Breton avec son couteau dans la bouche, fourche, tu sais, dans la jungle, et derrière, tous Thomas les autres gars qui suivent. C'est bon, vas-y en premier quand même. On va bien voir ce qui se passe. Mais franchement...
Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir.
Apple est en première ligne, bien sûr. Google aussi, puisque Google va être victime aussi de ces démarches. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais le printemps.
D'ouvrir leur App Store.
Voilà. Le printemps 2024 pour Apple et pour Google aussi va être sans doute assez mouvementé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anthony.
Merci.
Toujours un plaisir de t'accueillir dans De quoi je me mêle. On te retrouve bien sûr le matin sur BFM Business et avec Estelle aussi sur RMC et RMC Story. Tu ne bouges pas.
Je ne bouge pas.
On va continuer ensemble nos discussions avec Anthony. Ce sera notre module bonus que vous retrouvez, je vous le rappelle, exclusivement en audio. Voilà le podcast audio de quoi je me mêle qui vous propose un petit bonus. On va s'intéresser avec Olivier aux 40 ans du Mac. Voilà.
Happy birthday, Macintosh.
Et merci en tout cas de nous avoir suivis. Et si vous ne nous écoutez pas sur le bonus, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine à la radio, à la télé, bien sûr, et sur YouTube. À très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.